Bonjour mesdames, messieurs, merci d'être venus en cette veille de vacances et nous allons poursuivre. Nous en avons terminé lors de la dernière leçon avec la représentation générale que nous nous faisions aujourd'hui des textes avestiques et j'avais essayé un peu par anticipation de vous montrer les perspectives que ça ouvrait comprendre le phénomène des intercalations et voir combien les textes étaient parfaitement ajustés à l'introduction des intercalations, en tout cas dans le cas du Hadotnask. Là, comme nous le verrons, nous aurons l'occasion d'en reparler parce que il nous faudra parler aussi du livre des Yacht et le problème de son intercalation dans dans la cérémonie du Yasna est un peu plus délicate. Alors aujourd'hui, je voudrais que, puisque le cours s'intitule 20 ans d'études avestiques et mazdéennes, je voudrais en venir à l'aspect mazdéen des choses. Vous comprendrez à la fin de la leçon pourquoi il sera beaucoup plus facile d'aller vite, n'est-ce pas, dans ce domaine. Alors, je vous rappelle que, de manière traditionnelle, l'on se fait du contenu religieux de l'Avesta, c'est-à-dire de cette religion que l'on appelle soit le zoroastrisme, d'après le nom de son fondateur présumé, Zoroastre dans l'adaptation grecque, ou Zarathoustra, ou que l'on appelle mazdéisme d'après le nom de son dieu dominant. Il serait peut-être plus rigoureux de parler d'avestisme, comme on parle de védisme à propos des Védas, mais le terme n'est pas reçu, il n'a jamais été proposé, alors je me garderai bien d'en faire usage. La conception traditionnelle, celle que partagent encore beaucoup de mes collègues, est une conception biographique, ou si vous préférez, prophétique de cette religion. C'est bien sûr la conception que s'en font ceux qui aujourd'hui confessent cette religion, c'est-à-dire que l'on appelle soit Parsi en Inde, soit Zarathoustra en Iran, et que l'on considère, dans le cadre de la science européenne, comme une religion qui, à beaucoup d'égards, serait conforme au modèle des grandes religions monothéistes qui nous sont familières. Alors, en gros, et pour le dire très vite, mais de manière formulaire, cette conception est basée sur la situation suivante, c'est-à-dire qu'un prophète prêche une doctrine monothéiste où le souci éthique, c'est-à-dire la distinction entre le bien et le mal, supplante le ritualisme sacrificiel indo-iranien. Alors, chacun de ces termes, bien entendu, peut recevoir, selon les spécialistes, un certain nombre de variantes. Par exemple, quand nous parlons de doctrine monothéiste, s'agit-il d'une réforme ou d'une révolution ? Il faut bien voir que derrière les deux termes se cache ceci. Est-ce que d'une manière, le prophète, d'une certaine manière, le prophète en question, est-ce qu'il condamne brutalement l'ensemble du vieux panthéon indo-iranien, composé de ces dieux appelés à l'indo-européenne Deva, et qui deviennent des démons, hein, pour prêcher le culte d'un seul dieu qui sera Uramazda, ou au contraire, les choses se seraient-elles faites en deux étapes? C'est-à-dire que dans un temps antérieur à la prophétie, une classe de dieux parmi d'autres a été prédominante, à savoir les Ahura, ou Asura en indien, contre les Devas, et puis finalement l'œuvre du prophète n'aurait consisté qu'en une deuxième phase, c'est-à-dire prêcher le culte d'un Ahura parmi les autres, l'Ahura dont le nom est Mazda. Parfois même, l'on voudrais peut-être m'attarder un instant là-dessus parce que ça vaut la peine. Je vais dire que l'opinion peut-être la plus extrémiste de ce point de vue est celle qui fait du nom de Mazda, le nom de cet Ahura, la création même du prophète, ce qui est, à mon avis, linguistiquement une aberration. Ce qui est linguistiquement une aberration parce que le mot Mazda, c'est un mot très intéressant d'ailleurs, mais c'est un mot fossile. À l'époque, si vieille que puisse être les Gatha, si vieux que puisse être le texte que nous appelons l'Avesta ancien, ce mot-là possédait déjà, était déjà relevé d'un modèle dérivationnel qui n'était plus productif et qu'il était très certainement difficile de concevoir pour les auteurs des textes eux-mêmes. N'est-ce pas? Car le mot Mazda a un équivalent sanskrit tout à fait régulier, c'est le mot Meda, et où l'on trouve la forme radicale du verbe da, poser, placer, et puis cette diphtongue indienne, car le « e » traduit une diphtongue indienne, est tout entière fondée sur le fait qu'il n'y a pas de sifflante sonore en sanskrit. Le sifflante sonore n'existe pas. Elle existe en iranien, elle est conservée. Et de ce point de vue-là, nous pouvons donc voir assez bien qu'il s'agit d'un degré zéro généralisé, ce qui est absolument exceptionnel. Degré zéro généralisé, j'entends par là le degré zéro de la racine, et le degré zéro du suffixe en même temps du nom de la pensée. Alors, degré zéro, donc l'ensemble est réduit à son squelette consonantique et le résultat est mé en indien, manas en indien, mé et maz en iranien. Or, des noms de ce type, il y en a quelques-uns encore qui subsistent dans le Rig Veda et dans les Gatha, quelques-uns, deux ou trois, selon les analyses que l'on peut en faire, mais c'est un type de formation nominale qui est fossile, il est fossilisé. Donc je crois que l'hypothèse qui fait du nom de Mazda la création de l'auteur du texte, n'est-ce pas, quelque chose que nous ne pouvons pas retenir. C'est une hypothèse qui court, mais dont il faut faire justice. Bon, ça, pour en faire un petit commentaire. Alors, le souci éthique, ça a été aussi profondément analysé comme étant la source du développement d'une eschatologie. C'est intéressant, hein, une eschatologie dans le domaine iranien, parce que vous savez bien que dans les quatre des religions indo-européennes, l'eschatologie n'est pas le département le plus insistant. Hein. Vous connaissez tous, bien sûr, la mythologie grecque et romaine, tout de même l'Hadès, les enfers à la grecque et à la romaine, ce n'est pas une eschatologie extrêmement élaborée. Vous savez bien qu'il est arrivé malheur à l'eschatologie indienne, puisqu'elle a été, supplantée par la doctrine de la transmigration des âmes, par la doctrine de la métempsychose. Donc, d'une certaine façon, ça semble une originalité générale de l'Iran. Je vous rappellerai que j'avais d'ailleurs, il y a quelques années, afin de mettre les choses au point sur cette matière, j'avais invité ici à faire une conférence un professeur d'Uppsala, Anders Hultgård, qui avait fait... il y a une eschatologie relativement comparable à l'eschatologie avestique dans la mythologie scandinave, et il était question de faire le point avec un spécialiste des deux questions, de la question de savoir si cette eschatologie mazdéenne que nous trouvons dans l'Avesta est une innovation, comme on le présente le plus souvent, n'est-ce pas, ou au contraire un conservatisme. Et ce serait dans ce cas-là le domaine gréco-romain ou le domaine indien qui aurait innové en laissant plus ou moins l'eschatologie en déshérence. Vous savez que Hultgård avait d'ailleurs conclu à l'incertitude, parce que on ne peut pas savoir si effectivement il y a une correspondance de conservatisme entre le domaine scandinave et le domaine iranien, Mais il est possible aussi qu'il y ait eu des contacts qui aient favorisé peut-être l'adoption d'une eschatologie influencée par l'Iran chez les peuples scandinaves via les grands fleuves de la Russie. C'était, je vous le rappelle, la conclusion de Woodcourt. Je ne crois pas qu'il a jamais publié cela. Cette éthique productrice d'eschatologie supplanterait donc le ritualisme qui est nié dans la plupart des analyses que l'on fait de la religion de l'Avesta. Je vous rappelle la formule de Niuli, que j'aime beaucoup citer, de 1980 dans son livre, n'est-ce pas, disant que c'est une formule emphatically en anglais, anti-ritualiste et anti-sacrificiel, ce qui est, je le fais toujours avec un peu de cruauté parce que c'est évidemment exactement l'inverse. N'est-ce pas ? Mais cela a passé longtemps pour un trait fondamental de la religion de l'Avesta, que l'anti-ritualisme et aussi la donnée anti-sacrificielle, avec l'interdiction de procéder aux deux offrandes qui sont pourtant les deux offrandes indo-iraniennes traditionnelles, à savoir le hauma, le soma indien, et la vache, hein, comme animal d'immolation par excellence. Alors, ces caractéristiques de la religion dans son stade le plus ancien, à savoir les Gathas, cela contrasterait dans une certaine mesure avec l'Avesta récent, où ses traits persistent mais atténués, hein, avec un monothéisme fortement réinvesti par la personnalité de dieux nombreux et divers, et une doctrine, par moments en tout cas, dans certains départements des Yasht, beaucoup plus ritualiste, voire carrément sacrificielle, puisque nous avons tout de même deux ou trois attestations explicites du sacrifice sanglant. Cette conception que j'ai essayé de définir, hein, de la manière simple, hein, un prophète qui prêche une doctrine monothéiste où l'éthique et l'eschatologie supplantent le ritualisme sacrificiel, eh bien, des voix discordantes se sont fait entendre à la fin du XIXe siècle, surtout, n'est-ce pas ? Cette vision des choses n'était pas entièrement stable en tant que, je vais dire, doctrine générale à la fin du XIXe siècle. Et je citerai le nom de deux grands spécialistes, ce Friedrich Spiegel en Allemagne, qui considère que l'Avesta est un livre de nature mythologique, hein, et que tous les éléments, y compris ce qui concerne la personne du prophète Zarathoustra, relève du même schéma mythologique de l'histoire mythique que nous raconte l'Avesta à plusieurs reprises. Je citerai alors mes prédécesseurs, ici même, James Darmstetter, qui a attaché son nom à une interprétation essentiellement mythologique de la doctrine de l'Avesta, mais qui a le défaut, si l'on peut dire, c'est un défaut qui lui a coûté cher du point de vue historique, puisque la relative maladresse avec laquelle, à l'époque de Darmstetter, les spécialistes se débattaient encore dans l'analyse des faits mythologiques, n'est pas l'a incité à tout interpréter par une mythologie de l'orage, ce qui aujourd'hui fait quand même un peu désoué et qui a entraîné évidemment le discrédit de son analyse très rapidement, n'est pas, avec le développement des connaissances des mythologies des peuples orientaux. L'interprétation biographique, prophétique de la doctrine de l'Avesta s'est imposée parce que elle a été celle, aux alentours de 1900, des deux grands pères fondateurs de notre discipline. L'auteur de l'édition, Geltner, qui fera remarquer, mais sans aucune, sans aucune notation polémique, que tout cela lui paraît effectivement bel et bien relevé de l'histoire. Et l'on trouve avec le même caractère pacifique et la même modération, la même affirmation chez Bartholomée, l'auteur du dictionnaire, qui un peu plus tard, à la fin de sa carrière, publiera une petite brochure qui est encore à la base de beaucoup de nos connaissances, Zarathustras Leben und Lehre. Donc je vous invite à bien réfléchir à la portée du titre, hein, c'est très clair, c'est un homme qui vit la vie, hein, Leben, la vie de Zarathustra, et son enseignement, Lehre, et son enseignement prophétique. C'est un titre tout à fait explicite, et l'on peut considérer que pendant une cinquantaine d'années, en tout cas, cette vision des choses pourra être qualifiée, comme elle l'a été par Hennig en 1951, d'opinio communis. Donc l'opinion commune sur le zoroastrisme de l'Avesta. Lorsque j'ai entamé, je reprends les choses un peu plus loin que d'il y a 20 ans aussi, parce que nous en avons un peu parlé il y a 2 ans, ça me permet à la fois d'être bref, mais aussi d'exposer les choses un peu d'une autre manière. Mais ici, nous allons retomber sur quelque chose que nous connaissons. Lorsque j'ai entamé donc, mes études de philologie indo-iranienne dans les années 60, j'ai appelé ce temps le temps du malaise. Et ceux d'entre vous qui ont lu la synthèse de Jacques Duchesne-Limin, La religion de l'Iran ancien, qui date de 1962, et qui est en français du moins le seul exposé encore vulgarisateur, et très bon d'ailleurs à l'époque, sur la religion de l'Iran ancien, donc de l'Avesta, mais aussi d'autres manifestations, comme le vieux Perse, n'est-ce pas, se rendront compte que c'est un livre qui parfois est singulièrement embarrassé. Je ne sais pas si un lecteur non spécialiste le perçoit comme cela. Mais moi-même, qui ai commencé mes études très peu de temps après 1962, et qui par conséquent, fréquentait le maître qui avait écrit le livre, je sentais bien que Duchesne-Limin se débattait dans un certain embarras. L'embarras venait de l'analyse des Gathas par Humbart, hein, dont nous avons parlé abondamment il y a 2 ans, hein, qui modifiait énormément de choses. Alors que Bartholomée et tous les savants à sa suite, jusqu'en 1952, en tout cas, considéraient que les Gathas étaient des sermons prophétiques, hein, où un prophète, en quelque sorte, venait exposer à un public. Parmi lequel figurait un roi, car on concevait le dénommé Vishtaspa comme un roi, et 2 ministres de ce roi. C'était ainsi que l'on interprétait les personnages de Jarmaspa et Phrashaushtra, dont nous avons déjà parlé l'an dernier. Bon, eh bien, cette idée de sermon en vers, qui était généralement acceptée, avait été mise en cause par Helmut Humbart dans une série d'articles dont le plus ancien date de 1952, mais qui sont réunis, qui trouvent leur synthèse dans l'analyse des Gathas que Humbart a publiée en 1959, où dès le deuxième mot de l'introduction, la définition des Gathas est livrée brutalement par Helmut Humbart, leader. Ce ne sont plus des sermons, ce sont des leaders. Dans le cadre indo-iranien, vous voyez que la conception d'Humbart est très claire. Humbart, je vous le rappelle, est le plus vieil élève de Karl Hoffmann, et c'est, peut-on dire, le tout premier étudiant de l'école d'Erlangen, quoiqu'il n'ait jamais étudié Erlangen, mais à Munich, à l'époque où Hoffmann y était assistant. Dans la perspective indo-iraniste qui est celle de l'école d'Erlangen, on comprend bien qu'il faut comprendre par leader des hymnes, et des hymnes analogues à ceux du Rig Veda. C'est très exactement cela qu'entend Humbart. Il y a 2 raisons à cela. Il y a 2 raisons de considérer les textes gathiques comme des hymnes. Et c'est 2 raisons incontestables. D'abord, il est évident que l'homme qui parle qui dit « je », le « je » gathique, ou bien le « nous » gathique, parce qu'il existe aussi, il alterne avec le « je », il est moins fréquent. Mais le « je » gathique ne parle pas à des hommes, il ne parle pas à un roi ou à un public, il parle au Dieu. Il parle au Dieu, il parle à Ahura Mazda, et il y a un certain nombre d'entités qui l'entourent, et à qui il dit « tu » ou, s'ils sont plusieurs, « vous ». Donc, la perspective est celle d'un hymne. Bon. Ça, c'est la première raison. Ensuite, lorsque l'on parle d'hymne du Rig Veda, la perspective de cette parole, c'est évidemment le rituel. On conçoit bien que les hymnes du Rig Veda, même si on ne les connaît pas avec précision, ont fait l'objet d'un usage sacrificiel, étaient utilisés dans le cadre d'un sacrifice, étaient utilisés dans le cadre d'une cérémonie, quoi que l'on fasse durant cette cérémonie. Or, ici, j'y insiste, c'est aussi une perspective qui est assez naturelle dans le cadre de la réflexion que mène l'école d'Erlangen, car cela met en cause directement le système verbal. Le système verbal gathique est un peu particulier. Il est archaïque, je vous le disais, je crois, encore, je vous le rappelais lors de la dernière leçon, en ce sens qu'on trouve la vieille opposition entre le présent et l'aoriste. C'est une des trois dernières langues archaïques du domaine indo-européen où l'on trouve cette opposition, hein, avec le sanskrit védique, mais aussi avec le grec. Mais il y a une autre particularité qui parfois affleure dans le Rig Veda, mais pas avec le même système. C'est l'emploi d'une forme que l'on appelle « oublier », ce qu'implique le mot, le sens qu'implique le mot en français, « injonctif ». On a appelé ces formes comme cela parce que, au départ, on estimait qu'il s'agissait de donner une injonction. Mais ce n'est pas ça du tout. Le terme injonctif est resté alors que nous ne croyons plus à cette fonction-là, parce qu'il est toujours gênant de changer le nom des catégories grammaticales. On ne sait plus de quoi l'on parle. Donc l'injonctif, c'est une forme verbale qui a toutes les caractéristiques du passé, c'est-à-dire les désinences secondaires, mais qui, ceux d'entre vous qui ont fait du grec sauront de quoi je parle, ne sont pas augmentés, il n'y a pas d'augment. Or, les formes du passé, en sanskrit védique, l'indicatif aoriste ou l'imparfait dans le cadre du présent, sont caractérisées par ce qu'on appelle l'augment. En grec, c'est epsilon, hein, augment, et en indo-iranien, c'est le préfixe A, l'augment. Eh bien, il n'y a pratiquement pas d'augment dans le système verbal gathique. On trouve des formes caractérisées par des désinences secondaires, mais sans augment. Alors, comment faut-il les considérer? C'est très ennuyeux pour comprendre un texte. Vous voyez bien que dans une traduction à l'époque de Bartholomée, c'était le cas, comment traduire une forme verbale de ce type? Est-ce un futur? Est-ce un présent? Est-ce un passé? Que faire, hein? Et généralement, la divination du sens tient lieu de doctrine. C'est l'eschatologie qui a joué, de ce point de vue, un grand rôle. Hein. Bartholomée était convaincu que le texte gathique accordait une place centrale, importante, à l'eschatologie. Il parlait donc des événements futurs. Et sa tendance a été de traduire les injonctifs par des futurs. Pas toujours, mais le plus souvent. En réalité, c'est un joker, hein, un injonctif, au point de vue du temps. On lui attribue la temporalité que l'on souhaite. Bon. Or, Hoffmann avait fait comme thèse d'habilitation une thèse sur l'injonctif védique. Alors, ce problème de l'injonctif est au centre des préoccupations Tumba. Je vous donne un exemple que vous rappellerez après nos deux dernières séries de cours. C'est ce deuxième chapitre de la première gatha où l'âme de la vache se plaint au Dieu, hein, parce qu'elle est immobilisée. Elle ne peut pas partir. Dans notre interprétation, ça signifie qu'elle a été immolée, mais que son âme ne peut pas être offerte parce que le jour n'est pas levé. Il faut attendre l'aurore. Bon, ça, c'est l'interprétation que nous avons donnée lors de ces cours. Mais justement, l'âme de la vache se plaint. Le verbe est gurjda. C'est un injonctif. C'est un injonctif, troisième personne du moyen. La désinence secondaire, la racine garz, indien gur, se plaindre. Voilà, un injonctif. Alors, l'âme de la vache se plaindra. Ici, Bartholomé ne va pas traduire par un futur, ça n'a pas de sens. Il ne semble pas que ça se rapporte au futur. Ça semble être un événement, soit passé, soit récent. Alors, on peut traduire par un passé. Si on traduit par un passé, ben, vous voyez que nous voguons allègrement vers la mythologie. On a l'impression d'un vieux mythe, n'est-ce pas, où l'âme de la vache se plaint du sort qui lui est réservé auprès des dieux. Il faut d'ailleurs comprendre aussi pourquoi c'est l'âme de la vache et pas simplement la vache. Hein. Là aussi, c'est une discussion. On peut accorder aucune importance au fait que ce soit son âme parce qu'on peut faire l'hypothèse, ce qui a été fait, d'une synecdoque. C'est-à-dire, lorsqu'on dit mon âme, ça veut dire moi, simplement. Donc, ce serait simplement la vache. Alors, on peut comprendre comme cela. On a ici un vieux mythe où la vache se plaint du sort qui lui est réservé auprès des dieux. Mais si vous traduisez par un présent, la perspective doit être réinterprétée. Et c'est ce que fait Humbart, n'est-ce pas ? C'est Humbart, en ce sens, transposant dans le texte gathique les conclusions que Hoffmann avait tirées de l'injonctif védique, hein, il fait apparaître que ce système d'injonctifs que nous trouvons dans les gathas, n'est-ce pas, se rattache à la situation liturgique. On ne va pas raconter au passé. On ne va pas constater au présent, n'est-ce pas ? Mais on va mentionner, hein, Erwähnend disait, l'injonctif était Erwähnend. Il fait allusion, il évoque. Là, oui, on pourrait, ce serait peut-être, pour traduire le mieux les catégories établies par Hoffmann, c'est considérer que l'injonctif est évocateur. Il n'est pas énonciateur, il est évocateur. Bon. Alors, si nous faisons l'hypothèse de l'évocation, on voit bien que ce qui se passe dans le texte gathique, c'est une sorte de discours parallèle à une série d'actions qui sont les actes du rituel. Et alors, il est intéressant de lire le commentaire que Humbart consacre au Yasna 29, à ce chapitre sur l'âme de la vache, et il nous dit, voilà, ce que nous avons ici, n'est-ce pas, c'est la référence à une situation rituelle où le prophète Zarathoustra, car cela, il ne le met pas en cause, hein, Humbart ne le mettra pas en cause, s'adresse, n'est-ce pas, s'adresse au Dieu et revendique l'idée qu'il ne faut pas se livrer. Vous voyez que Humbart ne met pas en cause l'anti-ritualisme, hein, il ne faut pas se livrer à l'immolation animale, mais la remplacer par quelque chose qui tout de même concerne la vache, c'est-à-dire une libation de lait. Voilà l'analyse que fait Humbart. Seulement, ce qui est intéressant dans cette analyse, c'est de voir, n'est-ce pas, que c'est évidemment d'établir le caractère, d'une part, hymnique des textes, et d'autre part, leur liaison avec une situation rituelle déterminée. C'est une toute autre perspective qui se dessine dans les gathas de Humbart et qui sont grammaticalement fondées. Hein. L'embarras de Duchesne d'Imain vient d'ailleurs de cela. Hein. C'est qu'il se rend parfaitement compte, quand il écrit 3 ans plus tard La religion de l'Iran ancien, que l'analyse de Humbart est grammaticalement fondée et incontournable. Mais que faire en 3 ans, n'est-ce pas ? Les choses n'ont pas eu le temps de se développer. Est-ce que cette analyse de Humbart compromet la vision traditionnelle du mazdéisme ? Virtuellement, oui. En réalité, non, parce que Humbart, qui est toujours vivant, est toujours actif, de toute sa vie, il ne l'a jamais. S'il a refusé toute sa vie. Toute sa vie, il n'a pas mis les choses en question. Il a publié en 1991 une nouvelle interprétation des gathas qui n'est pas fondamentalement différente de celle de 1959, mais où il a conservé, parce que c'est un titre-programme, les gathas, le titre est en anglais seulement, « The Gathas of Zarathustra ». Donc ce sont bien les gathas dont Zarathoustra est l'auteur, dont le personnage historique est l'auteur. Et en 2010, encore, dans un tout dernier état de la question, il a intitulé son livre « Zarathoustra and his antagonist ». Donc Zarathoustra et ses antagonistes, et je vous ai fait part d'ailleurs de ma perplexité sur le mot « antagoniste » lors des leçons des deux dernières années. Alors, voilà, donc, le tableau n'est pas modifié pour des raisons qui sont, je crois, relativement psychologiques, parce que, bon, je connais bien Umbar, j'ai été son assistant durant 6 ans, donc c'est un homme dont je connais bien les caractéristiques mentales, et je sais que c'est un terrain dont il ne veut pas débattre, il n'y tient pas. Bon, mais pour lui, son intérêt est purement linguistique. Il n'entend pas sortir de, de ce registre. Toutefois, quelqu'un a très bien compris que la perspective ouverte par Humbert était compromettée, en réalité, la vision traditionnelle des choses. C'est un certain Marie-Jeanne Mollet, hein, Marie-Jeanne Mollet. Qui était français, je crois qu'il était directeur d'études à l'École pratique des hautes études, a défendu sa thèse en 1962, donc 3 ans après la parution du livre de Humbert, et il a insisté sur le caractère liturgique du texte gathique, où il voit un sacrifice, mais un sacrifice sans insistance sur l'aspect haoumique ou l'aspect de l'immolation sanglante. Mais le défaut de Mollet, je dirais, était qu'au contraire de Humbert, Mollet n'était pas indo-iraniste. C'est un aspect des choses qui lui a échappé. Et il a fait une lecture moyenne iranienne des gathas. Il y a vu un vaste rite de rénovation du monde, un rite de nouvel an, en quelque sorte, donc nouvel an tombant lors de l'équinoxe du mois de mars, hein, pour le renouvellement de la belle saison. Or, nous avons vu que ce n'est pas une hypothèse que l'on peut défendre, parce que simplement, tous les temps rituels envisagés dans l'Avesta sont, pour les textes que nous avons, du moins des temps rituels quotidiens. Mais là, nous entrons dans les discussions actuelles et je ne veux pas y entrer. Mais la thèse de Mollet a été vivement combattue par Duchesne d'Yvelines parce que, de manière concomitante à cette interprétation liturgique du texte gathique, Mollet, quoique relativement timidement, niait l'existence historique de Zarathoustra. Ce qu'avait fait Darmstetter, il renouait ainsi par-delà Darmstetter, par-delà les grands fondateurs avec le scepticisme et l'anhistorisme de Darmstetter. La thèse de Mollet parue en 63, j'ai commencé mes études et j'ai moi-même toujours éprouvé beaucoup de scepticisme vis-à-vis, à cette époque, sur l'hypothèse traditionnelle que j'aurais pu caricaturer un peu bêtement et un peu trop simplement en disant que je voyais mal tout de même la légitimité historique que pouvait avoir la représentation suivante, n'est-ce pas, où un prêtre pieux vient dire à un bon roi qu'il faut être gentil avec les vaches. Parce que c'est ça, en définitive, hein, l'interprétation traditionnelle. Mais je n'ai jamais voulu, fatalement pas quand j'étais étudiant, je n'en savais pas assez, je n'ai jamais voulu donner une interprétation différente avant d'avoir de bonnes raisons de le faire, d'autres raisons de le faire. Parce que j'ai été, dans une certaine mesure, aussi découragé par Hoffmann qui pensait, c'est aussi intéressant de relever la chose parce que l'on voit combien les choses peuvent être mal comprises. Hoffmann disait, il reprenait le mot de Bernard Shaw à propos d'Homère, hein, disant que l'Iliade avait été composée par un certain Homère ou par quelqu'un d'autre du même nom. J'essayais d'expliquer à Hoffmann que ce n'était pas vraiment la même chose, parce que supprimer Homère, il vous reste l'Iliade. Seulement, ce qui est en cause ici, ce n'est pas la personne de Zarathoustra qui, d'une certaine manière, a fort peu d'importance, mais c'est l'existence du zoroastrisme. Certes, il y a un zoroastrisme, puisqu'il y a un zoroastrisme aujourd'hui, certainement, mais à partir de quand ? Là est la réelle question. À partir de quand est-ce une religion constituée de manière distincte de la religion indienne ? Et c'est comme ça que je voudrais poser la question. Est-ce que c'est déjà le cas dans les Gathas, ou n'est-ce pas encore le cas dans les Gathas ? Est-ce que c'est le cas dans l'Avesta récent, ou n'est-ce pas encore le cas dans l'Avesta récent ? Car cela non plus même, nous ne le savions pas à cette époque. Alors, il y avait autre chose. Je crois qu'il faut être prudent aussi. Vous savez, il peut être exaltant, hein, d'être un jour le Renan ou le Loisy des études zoroastriennes, n'est-ce pas ? Mais justement, il faut éviter, parce que ça n'est plus l'époque, de rejouer les querelles qui ont eu lieu sur l'existence historique de Moïse ou de Jésus. Je crois que ce sont des choses qu'il faut laisser à la mentalité du XIXe siècle, n'est-ce pas ? Nous n'avons pas... Nous ne pouvons pas faire cela aujourd'hui. Ce n'est pas une démarche que nous pouvons faire. Quoique ceux qui ont défendu et qui ont pris parti pour la non-historicité de Zarathoustra ont été accusés, bien sûr, de cela. N'est-ce pas, Madame Boyce, par exemple, a dit ouvertement que, je la cite, que l'hypothèse de la non-historicité de Zarathoustra était l'idée perverse de Français athées. Mais donc, il faut éviter peut-être un certain simplisme et le faire autrement. Alors, donc, lorsque Éric Pirard et moi avons fait les Gathas sont parus en 1988 et 1991, il y avait tout de même eu deux alertes sérieuses qui invitaient tout de même à revoir à nouveau, à douter fortement de la validité du schéma traditionnel. Ces deux alertes venaient de la même personne, une élève de Hoffmann, Johanna Narten. Vous voyez de quel livre je veux parler. Elle a en réalité fait deux livres d'une thèse unique qu'elle avait défendue en 1969. Le premier livre paraîtra en 1982, c'est « Diamushas Penta Imavesta ». Et le second en 1986. Voyez, nous nous rapprochons de 1989, hein, c'est le Yasna Haptangaiti. Alors, « Diamushas Penta », ce n'est pas d'une gravité exceptionnelle, mais tout de même. N'est-ce pas ? Dans l'idée que la doctrine religieuse de l'Avesta et dans sa plus ancienne expression, au moins les Gathas monothéistes, la présence d'un certain nombre d'entités, c'est-à-dire de divinités subalternes autour d'Awa Mazda joue un certain rôle. En principe, ces entités sont six. Or, la thèse de Narten, je l'ai déjà exposée, consiste à montrer que non, ce système n'est pas acquis dans les Gathas, il n'est acquis que dans l'Avesta récent. Alors, le système religieux, nous voilà beaucoup moins assurés de la nature du système religieux gathique. Qui sont ces ahuras, au pluriel, qui peuplent l'univers religieux gathique ? Alors, ces entités, en nombre instable, il y en a à la fois les entités qui sont personnalisées de façon permanente sont beaucoup plus rares qu'on l'a dit, mais celles qui peuvent être à l'occasion sporadiquement personnalisées, en quelque sorte le système produit de l'entité, comme le Rig Veda, peut produire de l'entité à tout moment avec une abstraction rituelle, eh bien on voit se dessiner quelque chose d'un peu différent. Mais pour la validité du schéma traditionnel, ce n'est pas très important, contrairement au Yasna Haptangaiti, parce que tout de même ici, le Yasna Haptangaiti est un texte fort négligé. C'est un texte très négligé. Il n'avait reçu d'analyse avant Nartain, d'analyse systématique, qu'au XIXe siècle, par un helléniste. Donc quelqu'un qui n'était pas vraiment familiarisé avec la linguistique et la philologie indo-iranienne, un certain Théodore Baounak. Il n'est même pas, je n'ai pas fait figurer le nom parce que le livre est un peu désuet. N'est-ce pas ? Or, Nartain est la première à s'y intéresser, et à s'y intéresser avec beaucoup de précision. Or, son analyse, là aussi, est incontestable. Je crois qu'aucun spécialiste, après, n'a mis cela en cause. C'est que le Yasna Rabtin Kaïti, contrairement à ce que l'on à la manière dont l'a envisagé Bartholomé ou Geltner, est un texte vieil avestique au même titre que les Gathas. Et voilà nos Gathas qui ne sont plus seuls à représenter l'état ancien de l'Avesta. Le Yasna Rabtin Kaïti est aussi vénérable qu'elle. On lui accorde une vénération au moins égale, puisque c'est lui, en réalité, qui occupe le centre du Yasna. Or, le centre d'un texte littéraire, selon les pratiques rhétoriques que l'on peut bien attribuer au monde indo-iranien, c'est une chose très importante. L'homme phallos, l'homme phallos du texte, le centre même du texte, c'est le Yasna Rabtin Kaïti, avec une gatha la plus longue, placé avant lui et les quatre autres après, plus bref. Donc, si l'on cherche l'épicentre, l'homme phallos du Yasna, ce ne sont pas les Gathas, c'est le Yasna Rabtin Kaïti. C'est une vision quand même assez étrange. Or, le Yasna Rabtin Kaïti présente des traits qui le différencient fortement des Gathas. D'abord, il est en prose. Ça, vous me direz, c'est un détail, oui. Mais j'attire votre attention tout de même sur le fait que c'est intéressant. Les littératures les plus anciennes sont le plus généralement en vers. Les littératures orales privilégient le vers parce qu'il est en soi facile à retenir. Il est mémoratif. Mais voilà un texte en prose qui présente beaucoup de particularités communes avec la prose brahmanique, cette belle prose brahmanique bien articulée, qu'assez bien décrite Armand Minard, dans ses capacités à souligner les mouvements syntaxiques d'une phrase longue et non soutenue par le maître. Donc, cette grande prose solennelle que nous pouvons trouver dans les brahmanas, eh bien, ce n'est pas un développement purement indien. Il y avait une prose indo-iranienne dont le Yasna Rabtin Kaïti nous donne un exemple pour l'Iran. La prose est donc peut-être au point de vue de la doctrine religieuse un détail, mais c'est malgré tout quelque chose dont je voulais souligner l'intérêt. Mais il y a autre chose. Il y a deux traits étranges dans le Yasna Rabtin Kaïti pour ceux qui semble contrarier singulièrement le schéma traditionnel. Première, c'est que le nom de Zarathoustra n'est pas mentionné. C'est peut-être un texte non zoroastrien, je mets zoroastrien entre guillemets, parce que le nom de Zarathoustra n'en fait pas partie, n'est pas mentionné dans le texte. Et deuxième trait qui, dans le cadre d'une certaine conception que l'on peut se faire, des religions archaïques présentes a été exploité. C'est l'importance considérable accordée aux eaux. On sacrifie certes à Ahura Mazda quelques entités qui l'accompagnent, mais le chapitre central, on est à nouveau ici à l'homme phallos, mais à l'homme phallos du Yasna Rabtin Kaïti lui-même. Eh bien, l'homme phallos du Yasna Rabtin Kaïti lui-même, le chapitre 38, c'est à la fois le cœur du Yasna, et c'est le cœur du Yasna Rabtin Kaïti, c'est le sacrifice aux eaux. C'est le sacrifice aux eaux. Si certains d'entre vous étaient peut-être là, mais ça remonte à plusieurs années, lorsque Almuth Hintze, qui est certainement la spécialiste la plus représentative de la pensée de Johanna Nartain elle-même, elle a été son élève direct, à l'époque où Karl Hoffmann était déjà vieillissant, Eh bien, Helmut Hinz a fait une conférence ici même où on lui a fait remarquer, n'est-ce pas ? Je crois qu'Albert de Jong qui était présent, c'était lors d'un colloque, et on a posé la question de savoir, oui, mais enfin, c'est quand même une chose étrange, n'est-ce pas ? Alors que le grand dieu de l'Avesta est Ahura Mazda, quel est cet étrange phénomène qui fait que, véritablement, pour le yasna dans son ensemble, et pour le yasna Haptangaiti, ben, l'accent semble être mis sur les eaux. Et simplement, Helmut Hinze n'a pu répondre que je ne veux pas spéculer. Hein, je ne veux pas spéculer. En réalité, on peut voir, il y a d'autres explications, je les réserve, hein, je ne veux pas entrer dans la discussion, je compte consacrer une leçon aux différences entre l'Egata et le Yasna Haptangaiti à un moment donné de ce cycle de leçons, et nous y viendrons. Mais enfin, voilà la situation en 1986. Nous savons à ce moment-là qu'il y a quand même un fait qui est aussi extrêmement gênant. Narten le sait, hein, Narten le sait, mais elle n'a pas non plus une âme d'oppositionnelle. Et elle a, au fond, occulté entièrement le problème, supprimé le problème, je dirais, hein, en disant, bon, le Yasna Haptangaiti est aussi ancien que les Gata. C'est certes de la prose, mais c'est là certainement la différence essentielle du point de vue stylistique entre les deux textes, et sans doute la seule différence entre les deux textes, mais il est probablement lui aussi dû à Zarathoustra, Zarathoustra et son auteur, avec cet argument étrange que je lui ai reproché, parce que, dit-elle, il est normal que le nom d'un auteur ne figure pas dans un de ses textes. Oui, mais alors pourquoi figure-t-il dans les Gata, n'est-ce pas ? En réalité, comme je vous le disais, Narten, j'ai l'impression, c'est une hypothèse qui était très bien reçue, hein, c'est une hypothèse qui, Stausberg l'a signalée, hein, est rapidement devenue une sorte de dogme. L'Avesta ancien tout entier, que ce soit dans son volet gathique ou dans son volet haptahatique, est l'œuvre de Zarathoustra. Je ne vous cache pas que attribuer le Yasna Haptangaiti à Zarathoustra, c'est bien sûr occulter les problèmes, et je vous disais que c'était pour moi dessiner une variante du principe du guépard. Maintenant que j'ai tout changé, que vais-je faire pour que tout reste pareil ? Ben, c'est ce qu'a fait Narten en attribuant. Où en étaient les choses lorsqu'Éric Pirard et moi, durant tout le courant des années 1980, avons travaillé sur les Gata. Et je vous ferai remarquer, nous sommes partis de là, pour le cours des deux dernières années, que nous avions à ce moment-là été relativement sages, nous sommes montrés agnostiques sur l'historicité de Zarathoustra. Nous avons fait l'hypothèse d'un texte effectivement liturgique, mais concédant que cet aspect rituel était certes l'aspect plutôt d'un rituel spéculatif, c'est-à-dire d'une spéculation sur le rituel, ce qui est un peu différent. Et nous n'avons pas mis certainement en cause d'autres éléments de l'opinion traditionnelle sur le zoroastrisme, à l'exclusion d'un fait, c'est que nous avons tout de même, parce que la grammaire l'impose, fait remarquer que la personne qui dit « je » dans les Gata n'est pas ou ne peut pas être toujours Zarathoustra. Hein. C'est un fait grammatical que l'on doit relever, mais vous savez aussi, parce que je vous l'ai fait remarquer, je crois, l'an dernier, Zarathoustra est effectivement le « je » de deux strophes, et de deux strophes seulement sur les 16 où son nom est mentionné. Alors, voilà, pour moi, Je voudrais aujourd'hui vous faire remarquer que ma conception du ritualisme vieil avestique s'est durci alors que le dernier volume des textes vieil avestiques est paru, je l'ai dit dans la quatrième naissance de Zarathoustra, lorsque j'ai préparé pour un colloque mitriaque de Rome qui s'est tenu en 90 mais dont les actes sont parus en 94, consacré ma communication, que je n'ai pas pu prononcer pour des raisons privées, je n'ai pas pu me déplacer, je voulais consacrer ma communication au rapport qui semblait être établi entre le dieu Mitra et la Daïna, dont nous avons beaucoup parlé il y a 2 ans. Je suis parti pour cela d'une phrase du Myriasht, où apparemment la Daïna ne figure pas, n'est-ce pas, et qui avait retenu mon attention quasi 20 ans auparavant, en 74, dans ma thèse sur les non-racines. Et c'est une phrase qui est intéressante à plusieurs égards, parce que c'est une phrase qui est extrêmement descriptive, avec beaucoup de précision, qui est très précise, sur le rôle auroral du dieu Mitra. Et aussi le détail, on dit que Mitra, c'est Mitra Miyazamaïdé, donc nous sacrifions Mitra, et puis la formule de base, la formule sacrificielle de base, est élargie par une proposition relative que vous avez devant les yeux. Alors, il est le premier dieu, Yasata, le premier dieu digne du sacrifice, Poirio, Yasato, Mainyavo, car c'est un dieu Mainyava. On peut traduire par aérien, car Mitra est dans le ciel. Hein. Donc le premier dieu aérien qui grimpe, Asnaoiti, c'est grimper, escalader. Il grimpe par-dessus la Hara. C'est la montagne de l'aurore, c'est la montagne de l'Est. Clôture de l'Est, c'est censé être la montagne derrière qui occulte encore un certain temps le soleil, ou la lumière diurne, hein, avant qu'elle apparaisse. Donc, il est le dieu qui grimpe, le premier dieu céleste qui grimpe par-delà la Hara, en face du soleil immortel. Oui, en face ou avant, hein, plutôt en avant-garde, en quelque sorte. Pour Vanaimat, je crois que c'est traduire avant, anticipativement. Avant le soleil immortel, aux chevaux rapides. Donc, d'une certaine manière, Mitra et le soleil, oui, mais pas vraiment le soleil. Il est en rapport avec le soleil et il apparaît avant lui. Et alors, voici la seconde relative est intéressante, Yo Pauirio. Lui, le premier, il saisit. Il saisit. Alors, la traduction traditionnelle est de considérer que le mot Barshnava est l'objet du verbe saisir. Or, Barshnu, c'est le sommet des montagnes. C'est mountain top, comme traduit Gershevitch. Hein. Donc, il est le premier à saisir les sommets qui sont beaux, Srira, et qui sont Zaranyo Piso, qui sont décorés d'or. Hein. Peint en couleur dorée, hein, aux ornements dorés. Or, grammaticalement, ça ne marche pas. Il y a une inconséquence grammaticale énorme. Zaranyo Piso, c'est un nom racine. Bon, ça doit être un accusatif pluriel. Mais cet accusatif pluriel, ça marche bien. Hein, comme c'est un nom racine, la désinence sera la même pour un masculin ou un féminin. Donc on peut considérer que Zaranyo Piso est masculin ou féminin. Il n'y a pas de distinction formelle. Et ça peut être un accusatif pluriel. Sriran, par contre, est un mot thématique. Hein. Ça signifie beau, mais c'est un adjectif thématique. Par conséquent, ça doit être un féminin. Tiens, un féminin. Et alors, le mot Barshnu, qui est masculin, Barshnava, n'est pas une forme d'accusatif. L'accusatif serait Barshnush, Vaishnava est grammaticalement, morphologiquement abnorme. Il n'entre pas dans le schéma. Alors, si nous nous laissons guider, non pas par le sens présumé, hein, le premier Dieu qui saisit les sommets dorés, hein, les beaux sommets dorés, ça c'est se laisser guider par la divination sémantique, hein, parce que ça pourrait bien être cela. Mais si, au contraire, comme fil conducteur, nous prenons la morphologie, voici ce que ça donne. Vaishnava est un locatif singulier. Absolument. C'est une forme totalement régulière d'accusatif singulier. Alors, on peut imaginer qu'il est le premier qui, arrivé sur le sommet, grimpe, hein, il grimpe sur le mont Hara, et il est arrivé sur le sommet. Et une fois sur le sommet, Vaishnava, il saisit, eh bien, quelque chose, des choses féminines au pluriel, quelque chose qui est féminin, n'est-ce pas, mais au pluriel, qui, les belles aux ornements dorés, aux vêtements dorés. Alors, bon, puisque nous sommes à l'aurore, vous voyez bien ce que l'on va supposer, l'hypothèse que j'ai faite en 1974, c'était de penser que nous avions ici le sous-entendu du nom de l'aurore, hein, Ushas. Ushar en avestique. Donc, il est le premier qui saisit les aurores sur le sommet. On a une image identique dans le Rig Veda où les dieux saisissent les aurores dans le réservoir des aurores pour en sortir celle qui doit se lever aujourd'hui. Bon, alors, c'est cette phrase qui m'a vais inciter dans cette communication à penser que la Daina, en réalité, était le nom Mainyava, un nom de l'aurore. Penser que la Daina était un autre nom de l'aurore, selon le principe que les choses dans le système avestique portent toujours deux noms, hein, comme Armaïti et la Terre, au point de vue matériel, mais elle est aussi une sorte de dévotion mentale du point de vue matériel, bien que Ushas, bien sûr, c'est l'aurore matérielle, mais Daina et sa forme Mainyava, sa forme immatérielle. Et j'avais dans cette communication donné les trois caractéristiques, nous les avons rappelées, qui sont communes à l'aurore et à la Daina. D'abord, c'est celle d'ouvrir les chemins à l'activité des hommes. On trouve exactement la même expression. Hein. L'aurore et passe, c'est-à-dire le nom du chemin, et ouvrir les chemins, c'est-à-dire frayer les chemins, le verbe rad, la forme est égale en sanskrit, et on trouve pat. L'aurore est frayeuse de chemin. Dans la Daina fraye des chemins comme l'aurore védique fraye des chemins dans le Rig Veda. Deuxième caractéristique, c'est un rapport privilégié parce que c'est le verbe même qui exprime son apparition. Le verbe chit. Le verbe chit. Acheti divo duita, dit le texte. Chit, c'est acheti. Chit, l'aurore apparaît, elle se fait remarquer. C'est quelque chose qui apparaît dans le ciel. Or, la Daina porte un autre nom dans le Miryasht, justement, elle est Chista, c'est-à-dire celle qui apparaît, celle qui se montre, celle qui se signale. C'est un autre nom que l'aurore. Troisième caractéristique, l'érotisme. Hein, c'est l'aurore comme la Daina. La Daina, c'est un autre problème, elle est plus sage, mais l'aurore védique, c'est une belle fille qui aime bien se montrer nue. Bon, alors, cette notation érotique, je vais la faire intervenir plus tard, c'est bien sûr la dernière gata. Ça évoque tout de suite ce qui se passe dans la dernière gata. Le Yasna 53, on sait depuis toujours que dans l'Yasna 53, on l'appelle la gata du mariage, car la situation est celle du mariage. La fille à marier, c'est la fille de Zarathoustra, qui s'appelle Puruchista. Puruchista. Puru, c'est-à-dire qui apparaît aux yeux de beaucoup. Mais le deuxième membre, ben, c'est très exactement ça, hein, Daina. Or, ici, l'érotisme est présent, n'est-ce pas ? Il y a un vers dont on n'a jamais très bien su que faire, mais dont on est absolument assuré, qui veut dire ceci, c'est que, le pénis qui va et qui vient au fond des deux cuisses. Bon. On s'est toujours demandé ce que Humbard n'osait pas traduire à cause des Zoroastriens, mais bon, on peut édulcorer toujours les textes, hein, tant qu'un zèle ardent brûlera dans votre chair, traduit du chêne d'Imain, bon, mais on sait fort bien que le sens n'est pas celui-là. Alors, vous voyez, lorsque l'on rassemble tous ces éléments, on voit bien que cette gata du mariage, ce n'est pas un mariage réel, n'est-ce pas ? C'est un mariage liturgico-mythologique, si je puis dire. Hein. Cette Puruchista, avec son superbe nom, sans même pas qui est formé sur le verbe de l'apparition de l'aurore, ça l'a traduit dans un rite, bien sûr, le vieux mythe indo-iranien du mariage de l'aurore avec son père, le soleil. Dire Zarathoustra, qui est le père de Puruchista, n'est pas le soleil, non. Mais Ahura Mazda est d'une certaine façon le soleil. Et dans le rite actualisé, Zarathoustra ne fait que reproduire ce que fait Ahura Mazda lors d'un sacrifice primordial. Donc les choses peuvent se voir comme cela. Et nous avons trouvé un autre indice, je vous le rappellerai, l'an dernier, en travaillant sur les textes, ça m'avait échappé en 90, mais nous avions à ce moment-là vu que cela paraît une banalité, quelque chose qui se rapporte à une réalité de tous les jours, mais cette fille Puruchista de Zarathoustra, qui est dite Yesvi, c'est-à-dire cadette. Alors on a l'impression, ben oui, c'est superbe, n'est-ce pas ça, c'est un ancrage merveilleux dans la réalité. Est-ce que l'on parle d'une fille aînée ou cadette si cette fille est mythique? Mais oui, mais justement, l'aurore védique, n'est-ce pas ? Celle qui se lève aujourd'hui, elle est systématiquement appelée Yarvi. C'est l'aurore cadette, l'aurore d'aujourd'hui. Donc vous voyez que le semblant de réalisme s'évapore, au contraire, devant un parallélisme textuel encore beaucoup plus complet. Alors, je vais terminer cet exposé ici. J'aurai quelques petits détails à ajouter lors de la leçon de reprise, le 10 janvier. Mais vous voyez, il n'y a pas de mythologie dans les gathas. C'est un texte essentiellement liturgique. Il n'y a pas de... Je vais terminer là-dessus. Hein. Il n'y a pas de mythologie au sens narratif et événementiel. On ne vous raconte pas des petites histoires qui se seraient passées dans le passé. La vache du Yasna 29, ce n'est pas non plus le bovin primordial. C'est la vache du sacrifice d'aujourd'hui. Bon, ce sont des métaphores du rite, si vous voulez. Je ne sais pas si on peut appeler ça une mythologie. Oui, sans doute. C'est un type particulier de mythologie qui n'est pas événementiel, qui n'est pas narrative, mais qui est métaphoriquement rapporté au cursus liturgique. Hein? Alors, pour moi, c'est... Ma critique de la conception traditionnelle du zoroastrisme a surtout été fondée sur les configurations de ce type, n'est-ce pas, que l'on trouve à l'intérieur du texte gathique et qui nous montre que certainement ce qui est fondamental dans le texte de l'Avesta ancien, ce n'est pas une prédication. Ce n'est pas l'exposé d'une doctrine. Nous assistons simplement au développement d'un cursus liturgique. Et notre devoir, ben, avant de discuter du système religieux, bien, c'est d'analyser les fondements même de ce cursus liturgique. Je vous remercie de votre attention.